Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un site atelier qu'on est en train de monter sur la zone atelier du bassin de la Moselle et qui concerne des ruisseaux de plaine. Donc, c'est vraiment un site atelier qui rassemble beaucoup de partenaires de notre zone et donc c'est pour ça qu'on est nombreux comme co-auteurs. Donc, ce que je disais, c'est que nous travaillons au sein de la zone atelier du bassin de la Moselle sur la conception d'un nouveau site atelier qui sera consacré au ruisseau de plaine. Et donc, ce site atelier se situe dans la forêt de la Reine. Alors, la forêt de la Reine, son histoire, elle commence par une légende qui est la mise à mort de Brunehaut, qui était marié en fait au petit-fils de Clovis. En fait, cet événement, il a eu lieu en Côte d'Or et pas du tout dans la forêt de la Reine. De façon beaucoup plus réaliste, en fait, l'histoire de la forêt de la Reine, elle est liée à l'abbaye de Rangeval, qui est une abbaye des Prémontrés, qui a été fondée au XIIe siècle et qui a été démantelée à la Révolution. Ce qui reste de cette abbaye est maintenant un monument historique qui a été réhabilité par des personnes privées. Alors en fait, la forêt de la Reine, c'est 1700 hectares au milieu d'un très gros massif forestier d'environ 5000 hectares. Cette forêt, c'est une forêt humide avec des sols qui sont principalement argileux et des marnes. Et elle se situe dans un grand espace qu'on appelle la plaine de la Wavre. Alors, cette forêt, elle a subi depuis longtemps des aménagements, notamment par ces fameux moines qui avaient construit des ruisseaux, des fossés assez rectilignes pour se préserver ou préserver les habitants des lieux de risque d'inondation, également pour aider à l'alimentation en eau et pour alimenter un certain nombre d'étangs que vous voyez sur cette carte, hein, des étangs piscicoles. Et puis, ben, les moines également travaillaient à l'exploitation de la forêt, à l'exploitation du bois. Alors, cette forêt de la Reine, elle se situe entre la Moselle et la Meuse, comme cours d'eau important. Ces petits ruisseaux que l'on trouve dans la forêt de la Reine, en fait, c'est ce qu'on qualifie de ruisseaux de tête de bassin. Ils appartiennent donc à un ensemble qui représente à peu près au niveau français 80% du réseau hydrographique linéaire, c'est-à-dire si on mettait bout à bout tous les cours d'eau. Donc ils ont une énorme responsabilité en termes d'approvisionnement en eau des écosystèmes, mais ils apportent également des sédiments et en milieu forestier également un grand nombre de bois morts et sont donc un réservoir de biodiversité. Malheureusement, ces ruisseaux de tête de bassin de plaine ont été fortement impactés par l'homme. Donc, et cet impact, il date pas d'hier, hein, puisque les moines avaient déjà, dans notre cas, beaucoup travaillé la question. Alors, ils ont été recalibrés de façon générale, que ce soit en forêt ou en zone agricole. Et puis, ils subissent et ils ont subi depuis pas mal d'années des altérations chimiques. Alors en zone agricole, eh bien, c'est beaucoup d'engrais, des pesticides, mais il ne faut pas oublier aussi des apports domestiques provenant des villages autour de ces cours d'eau. Beaucoup de ces villages, en fait, n'ont pas de station d'épuration et l'assainissement est un assainissement non collectif, donc avec des fosses septiques plus ou moins performantes. Globalement, ces ruisseaux de tête de bassin de plaine, ils ne sont pas beaucoup étudiés. Hein, on préfère de beaucoup travailler sur des ruisseaux de montagne et on ignore un petit peu comment ils fonctionnent sur différents points de vue et notamment est-ce qu'ils participent à l'épuration en fait liées aux altérations chimiques. Alors, dans le cas plus particulier de la forêt de l'Arène, la forêt elle-même, depuis la Révolution, elle a connu plusieurs étapes de conduite sylvicole. C'est une forêt domaniale entourée de forêts communales. La forêt humide a été largement asséchée. L'ONF a compté environ 150 mares qui avaient été asséchées. Par contre, les étangs piscicoles sont toujours exploités par des propriétaires privés. Et depuis à peu près en 2010, l'ONF a commencé à réfléchir à la restauration des cours d'eau qui traversent la forêt de l'Arène. Donc ça s'est réalisé par des opérations de reméandrage, par la création de petits seuils. Donc 10 ans après, est-ce que l'on est capable de regarder d'un peu plus près l'efficacité de cette restauration ? Alors, il est difficile de juger de l'amélioration de la qualité d'eau parce que malheureusement, on n'a pas des prélèvements qui ont été effectués il y a 10 ans pour pouvoir les comparer à ceux qu'on peut faire maintenant. Mais on peut regarder, par exemple, ce que la traversée d'une partie de la forêt apporte sur la qualité de l'eau. Également, on peut regarder s'il y a une amélioration globale des écosystèmes aquatiques. Donc, on s'intéresse à 3 ruisseaux particuliers, les 2 ruisseaux qu'on appelle les Breuils, donc Breuil 1, Breuil 2, et qui ont été restaurés donc avec ces petits seuils, avec ces reméandrages, et puis un ruisseau beaucoup plus naturel, le ruisseau de la Wavre. Alors, cette création de sites ateliers, en fait, elle résulte de l'intérêt de nombreuses équipes de notre zone atelier, et on a commencé à lancer une phase exploratoire pour mieux définir les objectifs scientifiques qu'on pouvait y développer. Donc, cette phase exploratoire, elle passe par une connaissance du milieu, bien connaître la topographie, l'utilisation des sols, et également regarder un petit peu autour de la forêt de l'Arène d'autres cours d'eau qui appartiennent à la plaine de la Wavre et pour lesquels on a des stations de mesure de débit, des stations de mesure de qualité d'eau dans le cadre de l'agence de bassin Rameuse, et puis étudier au moins sur un cycle annuel le fonctionnement de ces cours d'eau. Donc, essayer de regarder les débits ou au moins les hauteurs d'eau, parce que, ben, évidemment, ce n'est pas si facile que ça de mesurer ces débits, et notamment de voir quelles sont les périodes d'assec, quand est-ce que se fait la remise en eau. Effectuer des prélèvements d'eau pour faire une analyse donc, de la chimie, regarder d'un peu plus près la végétation, et puis regarder un peu le fonctionnement général avec de la décomposition de substrats standardisés, des prélèvements de la microfaune. Alors le léger petit souci, c'est qu'on a commencé à mettre en place cette phase exploratoire en mars 2020 et vous savez très bien ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, on n'a plus pu aller sur le terrain. Bon, cependant, on avait mis en place quelques outils métrologiques et notamment des appareils photo de chasse qui nous ont permis, à l'aide donc d'échelles, d'enregistrer les variations d'hauteur d'eau et donc de pouvoir, comme cela, suivre l'évolution de la hauteur d'eau de nos cours d'eau. Et puis, dès qu'on a pu retourner sur le terrain, et on a effectué des campagnes de terrain, et donc vous pouvez voir sur ces 2 photos que la hauteur d'eau dans les cours d'eau peut varier de façon significative au fil du temps. Alors, des premiers résultats qui concernent l'évolution des hauteurs d'eau dans nos 2 cours d'eau. Donc, je vais m'intéresser principalement au Breuil 1 et au Breuil 2. Donc, ce que vous voyez en bleu clair, c'est la pluviométrie qui est enregistrée au Collège Amiral de Rigny à Toul, hein, et qui est disponible sur le site InfoClimat. Et puis, ben, les points bleus plus foncés, ce sont les hauteurs d'eau que l'on peut déterminer à partir des images qui ont été enregistrées. Alors, quand vous voyez ici des endroits où il n'y a pas de points, c'est tout simplement que j'ai eu un peu la flemme d'aller d'aller mesurer en fait ces hauteurs d'eau sur toutes les images, puisqu'elles ne bougeaient quasiment pas. Donc on voit au printemps que nos deux cours d'eau ont une grande hauteur d'eau et que suite à une période où la pluviométrie était nulle, la décroissance de la hauteur. Là, la décroissance sur le Breuillen, elle a été très brutale et on pense en fait qu'il y a eu une embâcle qui a sauté sur le cours d'eau, sans doute au niveau d'une buse, et qui a conduit à l'évacuation en fait de l'eau dans le cours d'eau. Au cours de l'été, très peu de... Il y a toujours eu un petit peu d'eau dans nos cours d'eau, hein, donc il y a toujours eu de quoi alimenter la vie aquatique. Et puis là, ces dernières semaines, eh bien, on a vu à nouveau des hauteurs d'eau un peu significatives dans ces deux ruisseaux. En termes de qualité, donc, les premiers résultats nous donnent la variation de la qualité d'eau sur environ une longueur de 500 mètres. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne les nitrates, hein, puisque la partie amont de nos cours d'eau, eh bien, elle est en zone agricole, donc on s'attendait à trouver effectivement des nitrates. On voit une légère diminution de ces nitrates dans la zone forestière. En ce qui concerne les phosphates, on voit également une légère diminution. Là, quand vous n'avez pas de valeur, ben, c'est tout simplement que les orthophosphates étaient inférieurs à la limite de quantification. En ce qui concerne maintenant globalement nos deux ruisseaux Breuil 1 et Breuil 2, vous avez vu qu'ils sont assez peu éloignés l'un de l'autre, mais cependant, on voit une différence dans la chimie globale en ce qui concerne les nitrates, en ce qui concerne les chlorures ou les autres paramètres qui sont mesurés. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde un petit peu plus finement ce qui cause en fait ces différences dans la qualité chimique. Alors les perspectives, eh bien, vendredi dernier, on a été préparer nos appareils photographiques pour le confinement, hein, en changeant les piles, etc., puisqu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on pourra y retourner. Ce qu'on espère en 2021, eh bien, c'est pouvoir reprendre un petit peu notre programme de 2020 avec des collectes de données supplémentaires et puis certainement améliorer notre stratégie de suivi en essayant de suivre les cours d'eau sur une plus grande longueur du linéaire hein, pour voir réellement si on a une amélioration de la qualité de ces cours d'eau. Et puis, bien on n'ait pas pu faire grand-chose cette année, les résultats qu'on a obtenus nous ont donné de nouvelles idées, hein, notamment pour avoir une meilleure connaissance du réseau hydrographique et en particulier la liaison avec les étangs piscicoles qui sont exploités, une analyse des sols et de la flore, augmenter la qualité de la métrologie et puis regarder aussi quel était l'effet de la faune qui vit dans cette forêt assez giboyeuse. Sur le lit des cours d'eau et sur l'érosion des berges. Et puis également, et bien comme l'a présenté Chloé tout à l'heure, essayer de faire une reconstruction de la trajectoire de cet écosystème avec une frise chronosystémique, en regardant notamment quels ont été les usages au cours du temps et ce qu'ils sont devenus. Cette forêt, elle est toujours exploitée pour le bois, il y a toujours de la pisciculture, mais c'est aussi un lieu de promenade pour les habitants autour, donc dans les villes autour de cette forêt. Je vous remercie.